En mars dernier, il y a 60 ans, stop, rewind, comme on disait en bon français. Oui, il y a 60 ans, en mars dernier, je l'ai dit à l'envers, on soulignait une marche importante qui est la marche de Selma à Montgomery. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, il me semble. Il n'y avait pas eu un film à un moment donné.
Là, vous ne mêlez pas avec Thelma et Louise? Là.
Selma. Oui, oui. Puis on ne traverse pas un pont. Peut-être que je me mélange d'événements. Mais...
Bon, de toute façon, on a vraiment la personne, l'expert pour nous en parler, qui est au bout du fil. C'est Marcel Dugas. Bonjour, Marcel.
Bonjour. Je peux vous confirmer qu'il y a eu un film de fait là-dessus et qu'on traversait un pont.
Bon, alors Yvan était sur la bonne voie. Il est soulagé.
Comme vous le savez, Francine et Yvan, je suis votre correspondant dans les années 1960, décennie marquée notamment du saut de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Et un des grands dossiers dans les médias en mars 1965, c'était cette grande marche pour favoriser l'expression du droit de vote de la communauté afro-descendante. Une marche qui va faire découvrir à la terre entière la ville de Selma dans l'État de l'Alabama. En Alabama, on est vraiment dans le noyau dur des anciens États esclavagistes. Au cours du siècle qui a suivi l'abolition de l'esclavage partout aux États-Unis, c'est un des États qui a résisté le plus férocement à la reconnaissance des droits de la population afro-descendante. Les Noirs y sont des citoyens de seconde, sinon de troisième zone, et une des méthodes utilisées pour assurer le maintien d'un gouvernement par les Blancs pour les Blancs, c'est qu'on empêche carrément les afro-descendants de s'inscrire sur les listes électorales. Et aux États-Unis, on n'a pas d'organismes comme Élections Canada, Élections Québec, qui établissent des normes nationales pour assurer que les élections sont menées partout de manière équitable pour tout le monde. Ce sont les politiciens locaux qui décident des règles qui les arrangent, qui favorisent leur réélection ou encore qui assurent le maintien du statu quo politique, économique et social dans leur juridiction. Et non satisfait de voir des organisations comme le Ku Klux Klan intimider la population noire pour lui enlever le goût de se rendre aux urnes, à plusieurs endroits, et pas seulement en Alabama, on multipliait les obstacles à l'inscription des afro-descendants sur les listes électorales. À partir des années 1870, presque tous les anciens États confédérés ont fait adopter des lois qui rendaient l'exercice du droit de vote conditionnel au paiement d'une taxe. Et c'était pratique, parce que ça nous permettait d'exclure les Blancs pauvres, à qui on ne voulait pas donner trop de pouvoir. Les femmes, lorsqu'elles ont obtenu le droit de vote, on a pu limiter leur influence également grâce à ça. Mais aussi, et surtout, c'était un frein au vote de la population afro-descendante qui était concentrée au bas de l'échelle socio-économique. On combinait ça avec des tests d'aptitude en lecture qu'on devait réussir pour avoir le droit de voter, encore là, dans le but d'exclure les gens au bas de l'échelle, surtout les afro-descendants.
Les tests de lecture, on faisait passer ça comment?
D'une manière très arbitraire. Littéralement, on raconte comme quoi il y avait dans la communauté noire, il y avait des avocats, des médecins, des enseignants qui échouaient régulièrement ces tests-là. C'était des tests de compréhension de lecture, mais les barèmes utilisés pour donner les notes, c'était vraiment dans l'œil de la personne qui faisait passer les tests, qui les corrigeait et qui étaient évidemment tous des gens très proches de la structure du pouvoir blanche dans les différents comtés où ça se faisait. C'était vraiment une mesure pour exclure encore plus de gens, si c'était possible. Et Selma, c'est un des endroits où toutes ces mesures-là fonctionnaient le mieux. Sur les 15 000 Afro-Américains qui y étaient en âge de voter, 130 à peine étaient inscrits sur les listes électorales. Au cours des années 1963, 64, 65, on intensifie les efforts pour rectifier la situation. On organise notamment des manifestations qui sont durement réprimées par la police, dont une qui a lieu dans une ville située à proximité où un manifestant a été violemment battu, puis abattu par les forces de l'ordre. Et c'est suite à ça qu'on décide d'organiser une grande marche qui doit partir de Selma pour se rendre jusqu'à la capitale de l'État, Montgomery. On veut en personne aller demander des comptes au farouchement ségrégationniste gouverneur de l'État, George Wallace. C'était une manière de canaliser la colère de la communauté dans la non-violence. Mais Wallace déclare la marche illégale et va demander aux forces de maintien de l'ordre d'empêcher la tenue de l'événement. Le 7 mars, un groupe de 500 à 600 marcheurs et marcheuses prennent la route. C'est une marche de 80 km qui doit durer plusieurs jours. Elle sera stoppée au bout d'une demi-heure. Alors qu'on s'apprête à quitter la ville en utilisant le pont Edmund Pettus, qu'on a vu notamment dans le film et dans toutes les commémorations qu'on a fait de l'événement par la suite, des policiers, accompagnés de blancs ordinaires qui s'étaient portés volontaires pour prêter main-forte à la police, attendaient les marcheurs à la sortie du pont. Et les forces de maintien de l'ordre chargent avec des gaz lacrymogènes, des bâtons, des fouets. On avait des chevaux. Les manifestants se dispersent dans le désordre. 17 d'entre eux devront être hospitalisés, sans compter ceux et celles qui ont été traités pour des blessures mineures. Et le gouverneur Wallace dira plus tard qu'on a envoyé 17 manifestants à l'hôpital parce qu'on craignait pour leur sécurité pendant la marche. Et c'est pour ça qu'on l'a réprimé. Il n'y a pas seulement aujourd'hui, dans le monde actuel, qu'on entend des politiciens conservateurs aux États-Unis dire des choses d'une absurdité sans nom. Mais là, je m'égare mon sujet. Si on espérait...
Non, vous êtes tout à fait dedans. Là. C'est les parenthèses qu'on appelle, nous, à cette émission, Marcel.
Mmh. Oui, c'est une parenthèse. C'est ça. Mais si je commence à ne faire que des parenthèses à ce moment-là, je ne peux pas élaborer sur mon sujet.
Non, il ne faut pas en faire trop. C'est bien. Il faut que ça soit parcimonieux. Continuez.
Voilà. Et si on espérait qu'on pourrait étouffer le mouvement de protestation autour de la ville de Selma avec cette répression du Bloody Sunday, comme on l'a appelé, un des multiples Bloody Sunday recensés dans l'histoire, ça a plutôt eu l'effet inverse. Martin Luther King, qui était venu à Selma plusieurs fois auparavant, revient, il est rejoint notamment par des hommes et des femmes d'Église de toute confession, venus d'un peu partout. Dieu prenait une grande place dans le mouvement pour les droits civiques. Martin Luther King lui-même était un révérend. On organise une deuxième marche. Celle-là sera très brève. On reste dans les limites de Selma le 9 mars. En fait, on attendait qu'un tribunal déclare officiellement que la marche était légale avant de pouvoir retenter de couvrir la distance entre Selma et Montgomery. Et le soir de la deuxième marche, des membres du Ku Klux Klan ont attaqué trois pasteurs protestants blancs qui étaient venus supporter la cause. L'un d'eux va mourir de ses blessures, ce qui entraîne une grande vague d'opprobre aux États-Unis et ailleurs. Et vraiment, pendant les deux semaines qui suivent, Selma, en Alabama, fait les manchettes à tous les jours. Il y a des manifestations de solidarité avec les Noirs du Sud un peu partout aux États-Unis et même chez nous. On en a eu devant les ambassades et les consulats américains, notamment à Montréal et à Ottawa. Le 15 mars, le président américain Lyndon B. Johnson présente au Congrès et en direct à la télévision le Voting Rights Act, une des lois les plus importantes, les plus significatives passées au 20e siècle par le Congrès. C'est un projet de loi destiné spécialement à assurer l'accès aux boîtes de scrutin au plus grand nombre. La loi interdisait notamment l'imposition de tests d'aptitude de lecture pour pouvoir voter. On a obtenu dans les jours qui ont suivi des tribunaux l'autorisation de marcher et au matin du 21 mars, près de 8000 personnes, on était 600 deux semaines plus tôt, là on est rendu 8000, se sont élancées dans les rues de Selma. On a à nouveau franchi le pont Edmund Pettus, devenu un véritable symbole de la lutte pour le droit de vote. Cette fois, il n'y a pas eu de répression. Il faut dire que le président Johnson avait pris sous son contrôle la garde nationale de l'Alabama et ce sont des militaires qui ont assuré la sécurité des protestataires tout au long de leur périple. Il fallait les protéger contre les suprémacistes blancs et contre la police locale, deux entités qui se recoupaient significativement, devrais-je dire. On marchait toute la journée et au soir, on s'installait pour camper. On va faire ça pendant 4 jours. Et le 25 mars, devant plus de 25 000 personnes, là, c'est le temps des discours de la grande conclusion de cette marche-là qui a eu lieu devant le Capitole de l'Alabama. La plupart des 25 000 personnes qui étaient présentes n'avaient pas fait toute la marche. Ils en avaient fait une petite partie. D'autres étaient arrivés seulement pour la grande conclusion, alors que Martin Luther King donne un autre de ses célèbres discours. Cette tentative de marche-là sera considérée comme un succès, même si la marche en elle-même n'est pas si importante. On avait réussi à le faire, c'est ça qui comptait vraiment, et surtout, on avait réussi à attirer les yeux du monde sur la cause, on a attiré l'attention des législateurs qui ont fait adopter la loi sur le droit de vote au mois d'août, Et c'est là que la marche, si vous voulez, prend tout son sens. Ça faisait longtemps qu'on essayait d'amener le public à s'intéresser à ce qui se passait et à en faire une question prioritaire. Évidemment, il restait encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les gens de s'inscrire et d'aller voter. Mais on a fait une grande avancée à ce moment-là et on a notamment pu, et je termine là-dessus, en amenant la population afro-descendante de Selma à s'inscrire, on a pu faire battre aux élections le shérif, il s'appelait Jim Clark, qui avait mené la répression, qui avait fait emprisonner tout le monde, qui avait lancé la charge sur les protestataires sur le pont Edmund Pettus le 7 mars. Donc, on a commencé quand même assez tôt à voir des résultats concrets de cette avancée-là de la lutte pour le droit de vote des Afro-descendants dans le sud des États-Unis.
Dites-moi, Marcel, est-ce que ce Voting Act là, qui a été adopté sous Johnson, est-ce que depuis ce temps, il a subi des amendements importants ou...
On a commencé par le renforcer au fil des années. Puis, on a commencé à le... Voyons, maintenant, la Cour suprême actuelle des États-Unis ne lui voit plus vraiment d'utilité et on lui a enlevé beaucoup de son mordant au cours des dernières années pour des raisons, encore une fois, qui, je pense, sont évidentes compte tenu du climat politique actuel aux États-Unis en ce moment.
Oui, c'est ça. En tout cas, on va espérer que ce droit de vote sera protégé pour tous. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup de nous avoir éveillés encore sur une problématique très, très contemporaine, même si on a parlé du 60e anniversaire. Donc, Marcel, on va se retrouver le 25, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on a congé. On vous souhaite un bon congé, Pascal,
bien,
et
merci.
À bientôt.
Bonnes vacances à vous aussi.
Merci.